Continental. Les gens du voyage, adolescence dans une caravane.
France Inter.
La première.
Full Continental. Caroline Gillet.
Je ne connaissais pas de personne ici de la communauté des gens du voyage de France. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre nous, on a vu les caravanes au bord des nationales, on a vu les campements à l'écart des villes, on a pu croiser les gens de la communauté du voyage sur les marchés, mais toujours de loin. Et puis on a entendu des histoires, on a lu des journaux locaux, des récits d'installations qui se passent mal, des riverains qui refusent leur présence. Les gens du voyage seraient 250 à 300 000 en France. Autant de milliers de personnes qu'on voit de loin. L'imprécision est aussi dans le langage, il n'y a même pas de mots, ou il y en a trop. On ne sait pas lesquels utiliser et on mélange tout. On les appelle de façon générique « gens du voyage », mais ils peuvent être manouches, tziganes, gitans, roms, romani, sintés ou yéniches. Souvent ils sont français, souvent ils se disent voyageurs, mais ils ont vécu des siècles dans les mêmes régions. Et si pour nous ils présentent une image bien floue, ils sont pourtant parmi les peuples les plus précisément répertoriés par l'administration française, car fichés depuis des générations. Je ne connaissais pas de personne issue de la communauté du voyage de France, et puis j'ai rencontré Pruna Demestre, 19 ans. C'est grâce à une association pour laquelle elle s'est engagée, École pour tous, une association qui a été créée par des jeunes Roms, avec des étrangers sans papier, et qui milite pour que tous et toutes puissent avoir accès à l'école. Pruna avait été invitée à leur rencontre annuelle, qui avait lieu dans un hôtel près du canal de l'Ourcq à Paris. Ensemble, on a donc parlé de ça, d'accès à l'école, et puis Pruna a commencé à parler de sa communauté et des préjugés qui sont attachés.
C'est toujours voleur de poules, moi j'ai entendu... Retourne chez toi, retourne dans ta caravane, c'est des sales gitans. Alors que j'ai jamais compris le sale gitan. Vous inquiétez pas, je me lave. C'est juste qu'en fait, ça fait mal de dire que tu me juges et tu me connais pas. Tu connais pas ma culture. Parce que les gens, ils nous disent, ah, vous venez de là, vous venez de là. Retourne dans ta, dans ton pays, la gitanie. La gitanie.
Ton pays, c'est la France.
Non, mais la gitanie. Si vous la, vous la trouvez, bah, contactez-nous.
Contactez-nous notre stade.
On arrive.
Du coup, la Gitanie n'existe pas, mais il y a en France des centaines d'aires d'accueil où vivent les membres de la communauté des gens du voyage. Et Pruna, avec sa famille, est installée sur celle d'Hélème Ronchin, en périphérie lilloise. Une aire qui est connue comme étant l'une des plus polluées, mais en vrai, il faut le dire, aucune aire d'accueil n'est jamais vraiment accueillante. Pruna m'a proposé de venir voir et de rencontrer ses tantes avec lesquelles elle milite dans un collectif de femmes pour alerter sur ses problèmes de pollution. Mais elle veut aussi me parler de ce que c'est que de grandir dans une caravane, les traditions des gens du voyage, ce qui change et ce qui reste, son amour pour la fanfiction, le motocross. Je me suis dit que tout ça permettrait d'y voir un peu moins flou. Alors j'ai pris un train pour la gare de Lille, et puis pas évident de trouver des transports publics pour rejoindre l'aire d'accueil. Pruna m'a conseillé de dire au chauffeur de taxi que c'était juste derrière le Castorama abandonné. Alors c'est là qu'il m'a déposé.
Allô, oui.
Ouais, coucou Pruna, ça va, je crois
ça
que je suis là. Ouais, c'est un parc. Ben, je suis devant un espace avec des bâches vertes et à l'intérieur des gens qui font un déj, un barbecue, et puis il y a des caravanes.
Je pense que tu t'es trompé de terrain parce que t'es allé devant des Roumains, alors que en fait, un peu au fond, on n'est pas vraiment situé dans une carte. En fait, on est situé nulle part, si tu veux, donc tu restes où tu es et j'arrive.
D'accord.
Au fond d'une usine, en fait, à côté de chez nous, il y a une usine. Et en fait, si tu vois, il y a une entrée juste à côté de toi, une entrée où il y a des portes cassées.
Oui, il y a des portes cassées et des gros blocs de béton.
Oui, bah c'est ça.
Ok.
Bah si tu avances jusqu'à là-bas, tu me verras, en fait, je suis en train d'avancer.
D'accord, ok. Attends. Et là, il y a un... Ah, mais voilà. Ça va, tu vas bien?
Ça va, et toi?
Ouais, trop cool. Ah bah, en fait, ça allait.
Ça
on n'était pas si loin.
On n'était pas si loin, on était juste comme ça.
Quand on leur a proposé de s'installer sur cette aire, la famille de Pruna était plutôt soulagée d'avoir un terrain avec des sanitaires. Très vite, ils ont compris que leurs conditions de vie seraient catastrophiques. L'air est coincé entre une usine de béton, d'où sortent des semi-remorques chargées de poussière, une concasserie, autrement dit une station de concassage de gravats, et des lignes de TGV.
Il y a beaucoup de pollution, et il y a beaucoup de cas chez nous malades et tout. Notamment, il y a des crises d'asthme, beaucoup. Surtout les jeunes,
les bébés,
les nouveaux-nés.
Et il y a donc des bétonnières qui passent toute la journée.
Parce que du coup, ils roulent fort. Du coup, il y a beaucoup de poussière dans les yeux et tout. Et en fait, c'est l'été le plus. Il y a des tempêtes de poussière. ça existe. Toute la poussière, quand il y a le vent, en fait, ça va sur nous. Mais des deux côtés, parce qu'en fait, de l'autre côté, il y a une concasserie. Donc on sort rarement dehors, on va dire, même quand il fait des 30 degrés et tout. On préfère rester chez soi, comme on dit.
Donc à l'intérieur des caravanes. Et toi, t'habites ici depuis combien de temps ?
Depuis que j'ai 8 ans, j'étais scolarisée aux écoles juste près d'ici, à LM. Et après 5 ans, on a commencé à voir les dégâts sur la peau vivement. Parce qu'à un moment donné, on a eu la gale du ciment. On a eu des allergies, on a eu plein de trucs. Et en ce moment, on a que des maladies et tout. Donc c'était galère. Quand j'avais des amis, je ne pouvais même pas les ramener ici à cause de la pollution. Je ne voulais pas qu'ils tombent malades. Par exemple, au lycée, c'était très dur. Ils me demandaient comment je vis. Je leur disais en caravane, et tout, dans un air d'accueil, à côté d'une bétonneuse, à côté d'une cimenterie, à côté des SDF, à côté d'un champ où chaque été, quand il fait ses récoltes, il met du pesticide et tout arrive sur nous. Du coup, en fait, j'essayais d'éviter vite le sujet. C'est pas pour dire une honte, hein, je suis juste au contraire, c'est une honte où j'habite.
Ouais, ouais.
Pas dans ma caravane, au contraire, c'est toute mon enfance. Mais l'endroit où j'habite, c'est que de la pollution. C'est même pas un endroit pour vivre pour des jeunes. C'est loin, il n'y a pas d'intimité, il n'y a rien. Surtout pour une jeune de 17 ans qui veut voir la vie, qui veut avoir des amis et tout. Du coup, je leur parle et tout, hein, de mon terrain. Je leur dis comment il est, je leur fais montrer même des photos et tout. Hein. Je préfère qu'on se rejoigne dans un bon café, dans une terrasse, et parler de tout. Pas d'un terrain pollué comme ça, donc voilà.
C'est quoi ?
C'était un chat.
Il y a plein de petits chats et des chatons.
Ah oui, oui, il n'y a que ça en fait.
Il y a une cinquantaine de familles qui habitent ici, donc 200 personnes environ, me dit Pruna. Le terrain est entouré de grillages, ça ressemble à un camping, mais sans les arbres. Bon, il y en a quelques-uns, des arbres, pas beaucoup d'herbes. Ça ressemble, disons, davantage à un parking qu'à un camping. Et au fond du terrain, trois carcasses de voitures. Je reconnais une plaque des Pays-Bas. Elles sont déconstruites, décomposées, et il y a des bouts de métal partout.
En fait, ça, c'est parce que les gens, ils sont en train de faire la ferraille pour travailler, parce qu'ils n'ont pas vraiment des diplômes et tout, chez nous.
Mm-hmm.
Du coup, les gens, ils travaillent comme ils font. Ils chinent, comme on dit chez nous.
Ok, donc ils ont ramené ici des carcasses de voitures ou quoi?
En fait, ils coupent les voitures et tout, donc voilà. Et en vrai, je sais pas, je suis pas un garçon pour vous dire. Chez nous, on n'a pas l'habitude, les femmes ne s'intéressent pas vraiment à ça. Moi, personnellement, je sais pas, moi.
Je sais pas comment ils travaillent ça, quoi.
Voilà, je demande pas, je suis dans mon espace à moi, et ils sont dans leur espace.
Dans un documentaire de Brut, j'avais entendu que les ferrailleurs gagnent environ 80 euros pour une tonne de ferraille et qu'il fallait travailler 3 semaines pour avoir une tonne. Sur cette aire, la dalle de béton est séparée en espaces avec plusieurs membres d'une même famille sur chacun de ces espaces, sur lesquels est associé un bloc de sanitaire avec des douches et des toilettes en dur.
Ici, c'est toute ma famille. Du coup, là, c'est ma grande sœur avec son fils.
Okay.
Là, c'est mon grand-père.
Ok.
Là, c'est ma cousine.
Donc là, ils sont très, très voisins.
Voilà. On est serrés, je trouve.
Toi, t'habites dans une caravane avec ta famille, j'imagine ?
J'habite dans une caravane avec mon père.
Avec ton père.
Du coup, parce que moi, mes frères, ils ont leur caravane.
Ok.
Donc, je n'ai pas envie vraiment vivre avec mes grands frères.
Ok.
Du coup, voilà.
Pruna me dit qu'avec son père, ils ont acheté une caravane Lord. Que les hommes choisissent les voitures, les femmes les caravanes, parce qu'ensuite, c'est à elles d'en prendre soin. Dans la caravane, il y a un lit, un salon, une cuisine. Son père dort dans le lit, elle dans le salon.
Du coup, il commence à pleuvoir, je sais pas ce que tu veux faire.
Ben, comme tu veux.
On va aller dans mon chalet, je sais pas si c'est du monde.
Ok.
Et on va parler.
Très bien.
Beaucoup de familles, comme celle de Pruna, ont aussi, à côté de la caravane, un chalet de bois qui semble plus petit qu'il ne l'est de l'extérieur.
Super.
Dedans, il y a un espace de vie, deux canapés, une grande télé, un poêle à bois, une cuisine avec devant une table ronde.
Ah, ici aussi, il y a des petits chiens.
Tu es chez moi, dans mon chalet à moi.
Ah, il y a des photos aussi au mur.
Alors là, moi, c'est mes sœurs là-bas. Okay. Moi et mes sœurs.
Ah, vas-y, montre.
En fait, on est 7 dans la famille.
Ok.
Du coup, là, il y a mes 2 sœurs.
Ok.
La plus grande et la plus jeune. Et là, il y a moi.
Vous êtes habillée en tenue spéciale, c'est l'été, non ? Et vous êtes devant les grillages.
En fait, c'était une photo pour l'anniversaire de ma mère. C'était une surprise. Et voilà.
En fait. Et vous êtes toutes les trois bien habillées.
Bien habillées, bien et tout. Là, c'est ma grand-mère.
Ok.
Ça, c'est mon oncle qui est décédé d'un cancer.
Est décédé d'un cancer de quoi ?
Des poumons. Ma mère est morte il y a bientôt 2 ans, là. Du coup, elle est morte d'un cancer, elle aussi.
T'es émue un peu, peut-être, d'en parler.
En fait, j'ai pas trop l'habitude d'en parler de ma mère. Parce que, en fait, sa mort n'est pas. Pour moi, elle n'est pas juste. Voilà, elle souffrait jusqu'à la fin. Elle n'a pas pu sortir d'où elle était. Du coup, Du coup, en fait, et là, c'est la troisième personne qui est malade d'un cancer. Donc, voilà, c'est pas juste. Des gens qu'on aime meurent d'un cancer alors qu'ils devraient rester avec nous et tout. Mort de vieillesse ou quelque chose comme ça. C'est... Voilà. Et mon père, lui, il est dialysé. Lui, il est diabétique, type 2. Et du coup, je m'occupe de lui. En fait, j'étais au lycée, j'étais en CAP vendeuse. Et j'ai dû arrêter, ma mère est morte. Et j'ai dû m'occuper de mon père qui commençait à faire ses rendez-vous pour ses dialyses et tout. Donc, voilà.
Et ça veut dire quoi, t'occuper de lui? Qu'est-ce que tu fais pour t'occuper de lui?
On va dire que c'est moi qui prépare ses cachets, c'est moi qui vais avec lui dans les rendez-vous médicaux. Je suis comme son infirmière, on va dire. Du coup, je lui donne ses piqûres à l'insuline et tout. Je l'agglue au médecin, je prends ses cachets et tout.
Et comment il a été décidé que c'était toi qui t'en occuperais et pas tes frères et sœurs?
C'est parce que je suis proche de mon père. Je suis très proche et mes frères n'allaient pas s'occuper de lui parce que un homme pour chez nous, voilà, ça se fait pas.
Et du coup, c'est peut-être aussi cette période, elle a dû être difficile.
En fait, pour nous tous, ça a été vraiment très difficile. C'était flou. C'est comme si vous perdiez un pilier dans votre monde. Et ça s'effondre. Mais après, faut essayer de rester normal, même si c'est quelque chose de difficile à vivre. C'est quelque chose de... Le deuil, on vit avec, on le survit. On vit avec la personne qu'on a perdue. Parce qu'elle ne partira pas. Elle restera dans votre tête, dans votre cœur. Ça, c'est sûr et certain. On peut aller de l'avant, mais gardons toujours la même personne près de soi.
Tu dirais que c'est quand ça s'est arrivé que tu as décidé de te mobiliser avec le collectif?
C'est après que j'ai appris que ma mère était malade. Du coup, je voulais pas qu'elle vive dans cette condition-là. Je voulais qu'elle puisse sortir, profiter de l'air. Du coup, je me suis mis dans le collectif pour la rendre un peu plus fière de moi. Et j'étais contente quand je voyais de la fierté dans ses yeux. Ça m'a toujours fait du bien et ça va rester à jamais, je pense. La fierté dans les yeux de la personne que vous aimez le plus. En fait, c'est pour ça que je veux continuer dans le collectif. C'est pour rendre les gens que j'aime fiers de moi, pouvoir faire connaître ma voix, mon visage ou quelque chose comme ça, pour leur dire je veux sortir les gens que j'aime d'ici. Je veux vraiment que les gens soient à l'aise où ils vivent, pas où ils empêchent les gens de vivre.
Il ne pleut plus, on ressort dehors, on passe près d'un petit garçon qui joue avec du métal rouillé. Autour de lui, il y a toujours les petits chiens, parmi lesquels Flipper et Jouquel. Et au bout du campement, il y a un trou dans le grillage. Et derrière, au-delà, il y a un champ dont elle me dit qu'il est régulièrement arrosé de pesticides.
Et là, au bout, on entend aussi l'autoroute?
Oui, on a l'autoroute tout au fond. Du coup, on l'entend.
De l'autre côté du champ,
ouais. On l'entend. Et encore de l'autre côté, il y a le train. Du coup, on l'entend aussi. Donc, c'est pas vraiment agréable. Mais après, nous, comme je vous ai dit, on est habitués à tous les sons. Du coup, voilà, c'est peu agréable aux gens qui viennent pour la première fois au dormir. Il nous dit, là, on entend ça. Oui, après, mais nous, on a l'habitude. Surtout que la bétonnière, elle commence à 6h. Du coup, on l'entend à l'usine tous les matins taper et tout. C'est ma tante.
Ah ouais, super.
Allô?
On va rejoindre la dame du téléphone, la tante de Pruna qui s'appelle Sou-Hélène et qui est fondatrice du collectif des femmes de l'ère d'Hélène Ronchin. Dans son chalet, je peux vous dire rétrospectivement que j'ai aussi rencontré Carmen, une autre tante, et que plus tard, il y aura aussi Simone.
Merci.
Il y a les deux petits chiens là qui...
Mais tu m'as
enfin, surtout, il y en a un qui...
C'est le petit noir qui joue beaucoup avec l'autre. Coladjo, ça vous chole. Jouquel.
Jouquel.
Les gens grillés.
Et alors toi,
Naja Dourzoliana.
Moi, je me présente, moi c'est Sou-Hélène, je fais partie du collectif des femmes d'Hélène Ronchin. Le collectif a été créé maintenant depuis 8 ans par nos mères, nos tantes et nos sœurs. Moi, je suis partie de la deuxième génération. Je suis arrivée dans le collectif quand ma mère est tombée malade. J'ai continué.
Pourquoi il a été créé le collectif?
Parce que la concasserie à côté a été créée, en sachant que le terrain où on est, nous, il a été construit à côté d'une bétonneuse. La bétonneuse est en règle parce qu'elle était là avant le terrain. Mais quand la concasserie a été créée, là, ça a été la goutte d'eau et les femmes du terrain se sont rebellées. C'est là qu'ils ont créé le collectif.
Au tout début, comment est-ce que l'idée est venue de faire ça, de fonctionner comme ça, de faire un collectif de femmes plutôt qu'un collectif différent et puis de s'engager de cette façon-là?
C'est parce que les hommes chez nous, Pour eux, les gadjos, je ne sais pas si vous savez, les sédentaires, ne les entend pas. Et pour eux, ce serait comme se rabaisser, aller demander de l'aide aux sédentaires parce qu'ils savent très bien que ça ne va pas donner. Mais comme les femmes voient très bien les problèmes de santé qui touchent leurs enfants, les personnes âgées, c'est eux qui font le ménage, qui voient la poussière, c'est eux qui en avaient marre et qui voulaient se battre. Et quand ils demandaient l'aide aux hommes, ils leur disaient « Tu crois que les gadjos vont t'écouter ? Les voyageurs vont comprendre quand je parle comme ça. » Donc les femmes se sont quand même rebellées.
En 2016, les femmes du collectif ont sorti sur YouTube un petit film dans lequel elles partent en road trip pour comparer leur situation à celle des autres aires d'accueil de la région.
Ce jour-là, on manifeste avec une centaine de personnes devant l'île Métropole. C'est eux qui gèrent les aires d'accueil des gens du voyage. Des femmes d'autres terrains sont là pour nous soutenir. On est 4 femmes du collectif reçues dans les bureaux. On repart avec une petite victoire. Des tests sonores et de l'air doivent être faits dans les prochains mois.
Peut-être que vous vous posez cette question. Si c'est si pollué, pourquoi ne vont-ils pas ailleurs ? Eh bien d'abord parce que les enfants sont scolarisés là, et puis aussi parce que c'est très coûteux de voyager et difficile de trouver des places sur les aires d'accueil. Dans un article de la revue en ligne Reporter, daté d'avril 2021, je lis que c'est notamment du fait de la loi Besson, qui elle date de 2000. Cette loi, elle oblige les communes françaises de plus de 5000 habitants à prévoir les conditions de passage et de séjour des gens du voyage. Le souci, c'est qu'en contrepartie, si les autorités ont installé une aire, même vétuste ou polluée, ça les autorise à interdire le stationnement sur tout le reste de leur territoire. Et les amendes sont chères, me dit Sou-Hélène.
Est-ce que vous avez reçu à un moment des testeurs d'air et de pollution sonore ?
Alors,
tout le monde rigole là, quand je pose cette question.
Le seul test qu'on a eu, vous l'avez vu dans le film, c'est une plaque en fer. Est-ce que vous croyez que ça peut tester avec ça ?
C'est une plaque en fer qui est au bout d'un piquet, qui est plantée dans le sol. Et en fait, l'idée, c'est de mesurer s'il y a de la poussière sur cette plaque en fer.
Mais la poussière, elle ne reste pas. C'est une plaque, je ne sais pas moi, il pleut, il y a du vent, elle s'en va.
Et quelqu'un est venu prendre des résultats ?
Oui, on a eu des résultats du test avec ça. Ils ont le culot de dire que, apparemment, c'est vivable.
Je demande aux tantes si elles ont entendu parler de William Acker, jeune juriste de tout juste 30 ans, très médiatisé en ce moment et notamment au sein de la communauté, parce que sa mère est issue de la communauté du voyage et William a suivi une formation de droit pour réaliser ensuite seul, pendant un an, un recensement pour identifier les 1358 aires d'accueil en France ainsi que leurs conditions. Il dit « sans chiffres, pas de preuves, le problème n'existe pas ». William a sorti un livre il y a quelques mois. On y apprend que 70% des aires d'accueil sont à l'écart des villes, sans accès en transport public, et que 51% d'entre elles sont polluées. Elles sont soit à proximité avec des déchetteries, des stations d'épuration, des usines d'industrie lourde, on y subit des vibrations ou encore des pollutions sonores. Tout ça explique notamment que l'espérance de vie pour les voyageurs est de 15 ans inférieure à la moyenne nationale.
Et après, la France, ils disent qu'ils font quelque chose pour les Français, mais qu'est-ce qu'ils font pour les gens du voyage alors qu'on est Français ? Ils veulent nous sédentariser. Ok, c'est vrai qu'on n'est pas riche, on touche le RSA et tout ça. Le boulot de maintenant, on n'a jamais été élevé là-dedans. C'est les gadjos qui font dans les bureaux, dans les machins. Oui, les gadjos, Maya, j'ai dit, j'arrête pas de le dire de toute façon, ce truc-là.
Nous, on ne sait pas lire ni écrire. Comment on va faire dans un bureau ? C'est ça le plus dur.
Et ça change ça pour les plus jeunes ?
Oui,
énormément. En sachant que maintenant, les jeunes comme Pruna ou qui vont à l'école, on les pousse à aller au lycée, à avoir un diplôme et tout ça, parce qu'on le voit très bien que la vie change. On veut qu'ils aient un avenir.
Et c'était quoi, en fait, le voyage ? C'était comment ? Qu'est-ce que vous racontez aux jeunes qui n'ont pas vécu ça ?
C'était un plaisir de voyager, avoir un feu de camp et être en famille. Des fois, on partait de 5 à 6 mois sans soucier de rien. C'était vraiment une belle vie, quoi. C'était une vie.
Jamais malade, c'est ça aussi.
Ouais, faut le dire.
Jamais malade, jamais.
Ben, arrivé le soir, on avait notre feu, on délirait. Et c'est vrai que c'était des bons temps, quoi.
On mangeait ensemble, la famille, tout ensemble.
On était à 4-5 caravanes, il y avait quelques... Voilà, comme ici, vous voyez, on est en moins une centaine de caravanes, ben, il n'y en était pas autant. Hein.
Mais toi, Pruna, t'as pas vraiment connu ça, alors ?
Ah non, mais ça me donne vraiment envie, en fait, quand ils en parlent, nos ancêtres. Et ça nous donne envie, nous, les jeunes, de voyager. Nous, on se dit, pourquoi ils ont créé un terrain ? Si on est vraiment mal, s'il y a beaucoup de malades, si on pouvait voyager dans le temps, nous, on adorerait ça, les jeunes. On en parle souvent entre nous. Ils ont vu tellement de choses que nous, on voit toujours la même chose, on va dire.
Et du coup, qu'est-ce que vous lui souhaitez, quelqu'un comme Pruna ?
Avoir une belle vie, surtout vraiment souhaiter ne plus vivre là où nous sommes, de changer d'air, quoi.
parce que même pour elle, elle est trop jeune. Elle, bon, elle est là, elle a perdu sa mère. Qu'elle vit mieux. Qu'elle vit mieux. Ouais, en plus, voilà.
Bah oui, comme ça, elle ne restera pas ici.
C'est vrai qu'elle est jeune, mais j'aimerais bien qu'elle n'a pas une vie que nous, maintenant, on a.
Tu cherches un mari, Pruna ?
Non, dans l'instant.
Mais alors, que cherche Pruna ? On en parlera dans la partie 2 de cette émission. Une partie entière avec elle dans son chalet pour parler du quotidien, de courage, de mariage, de rites et d'aurore boréale. Ce sera après Marinero, Through the Fog, ou autrement dit, à travers le brouillard. Heureux et heureuse avec les membres de l'équipe de Full Continental, diffusée comme vous le savez sur France Inter, mais aussi sur la première de la RTBF, de vous proposer dans cet épisode de passer 35 minutes avec Pruna Demestre, jeune fille assez géniale en toute objectivité, qui vit sur une aire d'accueil de l'agglomération lilloise. Pruna est assez grande, elle porte ce jour-là un veston en jean, une mini-jupe, des baskets, des boucles d'oreilles, du maquillage violet et bleu sur les yeux et du rouge à lèvres. Pruna dit que c'est son look. Ça lui a mis du temps à le trouver. Avant, elle dit « je me cachais, je savais pas comment m'habiller, je me sentais mal dans mon corps ». Aujourd'hui, Pruna a 19 ans et elle dit qu'elle a grandi.
L'acceptation de son corps, c'est quelque chose de très difficile quand on est une jeune fille, surtout voilà, quand on est une adolescente. Là, ça fait pas longtemps que je commençais à faire mon, comment dire, body attitude.
Body positive.
Moi, je dis attitude parce qu'en fait, je trouve que c'est juste carrément une attitude maintenant. Parce qu'il faut s'aimer comme on est. Se trouver belle et sentir bien dans sa peau, et je trouve que ça commence. Et là, je pense que mon style, c'est un peu de mélanger de tout, et j'aime bien en fait parce que ça change. Des fois, je peux être d'une bohème à passer pour du vintage à du passé. J'aime bien en fait de changer de personnalité, et on me dit souvent, t'as plusieurs personnalités. C'est ça que j'aime bien dans mon style. Je n'aime pas être une seule personne. J'aime qu'elle a plusieurs facettes d'elle-même. C'est quelque chose d'extraordinaire que quelqu'un peut changer de personnalité comme ça. C'est amusant, c'est quelqu'un de spontané, il y a toujours le sourire, toujours une surprise.
C'est ça en fait, c'est se sentir bien dans son corps et s'affirmer, ça c'est vraiment important pour le
moment. Et tu crois que tu as commencé à le faire depuis quand?
Depuis un an.
Et c'est quoi l'élément déclencheur il y a un an qui t'a donné envie de faire ça?
Le maquillage, je pense. C'est quand j'ai commencé à me maquiller et je peux le dire, j'aime me maquiller. C'est loin d'être les gens qui disent « Ah, tu te maquilles pour sentir... » Oui, je me maquille pour me sentir belle. Et ça, j'ai envie de dire merci. Je me maquille pour me sentir bien, je me maquille pour plusieurs choses. Du coup, c'est ça. Hein.
Pruna appartient à la communauté des gens du voyage. Elle milite pour deux associations, le collectif de femmes de son aire d'accueil qui dénonce la pollution de ce lieu de vie indigne, et aussi une association qui s'appelle École pour tous. Et sur son compte Twitter, depuis quelques mois, elle partage essentiellement des informations et des articles sur cet activisme. Quand on remonte un peu, on voit qu'elle a longtemps partagé des infos sur Cameron Dallas, un très beau garçon. J'ai regardé 10 choses à savoir sur Cameron Dallas sur le site de Closer, mais j'ai pas appris grand-chose. En 2018, elle était aussi fan de 50 nuances de Grey et du musicien Zayn du groupe One Direction. Pruna lit beaucoup, elle aime les histoires de bikers, les livres romantiques de Gaël Sage, et sinon elle passe une majorité de son temps à s'occuper de son père, qui est malade, et à entretenir le foyer. Je lui demande si ça change beaucoup de choses de grandir ici quand on est une fille et quand on est un garçon.
Bon, maintenant, ça change. Maintenant. Mais avant, si t'es une fille, tu ne bouges pas. Si tu bouges, c'est avec tes frères ou tes cousines. Tu bouges pas tout seul. Tu restes toujours ici, tu fais ton ménage, tu attends s'il y a des invités, tu leur sers et tout. Maintenant, ça a beaucoup changé, je pense. Je pense que les jeunes filles ont le droit de plus bouger qu'avant, mais tant qu'on les prévient. Ils sont très protecteurs et ça, ça changera jamais. C'est des parents poules parce qu'ils ont peur. C'est vraiment peur de l'inconnu, comme je dis. C'est comme eux, ils ont peur de nous. Nous, on a peur de eux.
T'as peur des gens en dehors du campement
ou... Moi, on va dire, quand je connais pas quelqu'un, moi, j'ai toujours une peur qu'il me juge. Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il va aimer mes origines? Est-ce que je vais le plaire? Est-ce que ça va bien aller? Tout le monde a peur de quelque chose.
Mais parce que t'as déjà eu des expériences où ça s'est mal passé, ou t'as dit que... T'as parlé de tes origines et ça s'est mal passé?
Ben moi, c'est plus mon nom de famille qui est connu. Donc, quand je cherchais un stage, moi, quand ils voyaient mon nom de famille, c'était « Ah oui, ton nom de famille, ah, ça va être compliqué. » Du coup, moi, j'ai beaucoup de problèmes. On va dire pas beaucoup de problèmes, hein, mais comme je suis une fille, ça va mieux. En fait, ça dépend qui. Parce que bon, ça sert à rien qu'on se mette tous dans le même sac. Hein. Mais il y a des gens qui font ça, qui nous mettent dans tout le même sac, on n'est pas tous pareils.
Toi, à partir de quand est-ce que tu as su que tu étais différente de peut-être des comment vous les appelez,
les gadgets,
des sédentaires?
Depuis pas tout le temps, parce que dès que je vis dans une caravane, et les autres vivent dans des maisons ou des HLM, c'est pas pareil, je pense. On a une autre façon de vivre, on a des cultures différentes d'eux. Moi, je pense qu'on a même un langage différent. Des fois, quand je vous dis gadget, vous comprenez pas. Des fois, on va se tromper dans le langage et on va se regarder et on va dire « Ça se dit comment ?» Ça se dit comment déjà? Du coup, c'est difficile des fois.
Et donc ça, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu te rappelles quand tu étais petite et que tu t'es dit « Ah, en fait, on vit différemment, on a une autre culture ?»
Plus, j'ai réalisé plus ça au lycée. Parce qu'en fait, il y a rarement eu des gitans au lycée. Donc je pense que c'est là, quand moi j'ai dit je faisais ça, ils me disaient des autres choses. Moi, ça m'a paru bizarre. Et ça leur a paru bizarre. Donc,
comme quoi, par exemple?
Dire que moi, mes grands frères, ils me ramenaient où je voulais. Chez eux, non. Chez eux, ils se débrouillaient. Genre, moi, quand je leur dis, ouais, je suis là, tu peux venir me chercher. C'est sûr et certain qu'ils viendront. Alors que je sais que pour quelqu'un d'autre, comme par exemple chez vous, ça va être galère.
Et c'est vrai que moi, je me souviens, quand j'étais une jeune fille, quand j'étais plus jeune, le fait que les gens me disent « bientôt, tu vas te marier » et tout ça, c'était assez pesant. Finalement, je me suis jamais mariée. Mais est-ce que toi, ça, c'est quelque chose que tu as en conscience? Tu sais, tout à l'heure, on était avec ta tante et elle disait qu'il fallait bientôt se marier. Qu'est-ce que tu en penses quand on te dit ça?
Moi, je rigole, hein, parce que moi, je trouve que j'ai tout mon temps comparé aux autres. Parce que chez nous, ils se marient jeunes, ils se marient vers 18, 17 ans. Hein. Moi, je trouve que j'ai tout mon temps, même 30 ans, ça me va. Tant que je me trouve bien posée, avoir un bon travail, quelque chose de stable, être bien dans ma vie, et après avoir créé mon foyer, comme on dit chez nous. Parce que je pense que c'est ça le clé d'une vie en famille, faire grandir son enfant quelque part où il va grandir en paix, avoir quelque chose de merveilleux.
Et toi, t'as envie d'enfant alors?
Oui et non. C'est une bonne réponse, ça. Oui, moi, je trouve que j'ai mon avis, mais après, je pense à mon mari, futur mari. Est-ce qu'il a un mot à dire aussi? Je pense que ça aussi, ça joue. Alors, pour l'instant, moi, je me dis non, mais peut-être que lui voudra et ça changera d'avis après. Donc, pour l'instant, je ne suis pas pressée d'avoir des enfants. ni pressée de trouver un mari. Je suis juste pressée de vivre ma vie, je pense. Je veux juste pouvoir sortir comme avant, dans les bars et tout. Je pense que c'est ça.
Pourquoi est-ce qu'on est pressé de se marier?
Je pense pour la liberté. Je pense que c'est un peu ça. Chez nous, les femmes, elles n'ont pas vraiment tout le droit. Même un homme, on appelle ça un jeune homme. Après, ça devient un homme quand il est marié chez nous. En fait, chez nous, les relations elles sont cachées. Donc ça pèse. Ça pèse beaucoup dans un couple. Peut-être qu'il en a marre d'être caché. Peut-être qu'il veut vivre son amour en plein air.
Et du coup, c'est compliqué dans la communauté d'avoir une histoire amoureuse sans qu'il y ait de mariage.
Tu peux pas dire c'est mon petit copain, c'est ma petite
copine. Non, on n'a pas le droit, ça c'est interdit. Je pense que. Ça, même pour moi, en fait, chez nous, il y a la honte. Mais j'ai pas envie que mon père sache que j'ai un petit copain. C'est comme dire. Voilà quoi. Je trouve que vous voyez déjà mon visage, comment il est. Moi, j'aurais la honte de parler de ça. Je sais pas, chez nous, il y a des sujets tabous. Et en fait, on a grandi dans ça. C'est vraiment ancré.
Et surtout, que parfois, tu te dis cet été, je pourrais prendre. Une voiture et aller loin, visiter des choses et...
Un jour, je voudrais bien le faire, mais pas tout seul. J'ai grandi dans cette mentalité. Pas faire tout seul parce qu'on sait jamais sur quoi on tombe. Ça, j'aurais peur. Mais voyager avec des amis ou quelque part où j'ai toujours voulu aller, ça, c'est... ce serait un rêve.
Pruna me dit qu'elle est déjà allée aux Pays-Bas et en Allemagne, et aussi en Normandie avec sa classe. Et je lui dis, tout à l'heure, quand je parlais avec tes tantes de l'époque où elles voyageaient, elles avaient évoqué leurs déplacements réguliers à l'époque vers Montélimar, Bordeaux et Saint-Tropez, et le fait que c'était des lieux qui faisaient rêver les plus jeunes aujourd'hui. Je lui demande, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est là que tu irais, si tu le pouvais?
Moi, c'est pas mon rêve d'aller à Saint-Tropez. Moi, c'est vraiment aller en Alaska et tout. Moi, je veux vraiment voir des choses, en fait, comme ça. Je veux voir des oiseaux solaires, des auréoles boréales.
Des auréoles boréales.
C'est ça. Moi, je veux trop voir ça. C'est des trucs qui m'ont fasciné, qui me fascinent toujours. C'est voyager notre monde. Je pense que ça, c'est ça qui est beau.
Tu iras avec des copines?
En fait, ça, j'ai toujours pensé à aller avec quelqu'un
que j'aime,
je pense. Parce que c'est quelque chose à voir à deux, pas avec des copains, des copines. C'est quelque chose à voir avec une personne qu'on aime et qui a la même passion. C'est ça.
Et toi, t'es déjà tombée amoureuse?
Non. Jamais. Vraiment, je peux vous dire. J'ai trop vu, en fait, sur mes amis, ça faisait quoi de tomber amoureuse, des relations et tout. En plus, je me trouve que j'ai pas le temps pour ça. J'ai assez une vie active en ce moment, donc je trouve que j'aurai le temps plus tard. Et tout. Je me dis toujours plus tard, alors qu'un jour, l'amour va me passer et je vais pas le regarder. Alors. Ça, c'est mon neveu.
Vous appelez comment, vous?
Gips.
Gips?
Aaron. Aaron.
Tu t'appelles comment, toi?
Blanc.
Blanc. Parce qu'en fait, ses cheveux sont blancs, donc je l'appelle Blanc.
Pruna ne connaît pas beaucoup de gens qui ont quitté la communauté. Alors si, une de ses tantes, elle était partie il y a 10 ans pour vivre avec son mari, un sédentaire, dans une maison. Mais elle est revenue vivre avec nous en caravane, dit Pruna. Elle en a eu marre.
J'ai toujours demandé pourquoi ils vivaient, ils ne restent pas dans des maisons. Il y en a beaucoup qui ils en ont pris, mais ils ne restent pas au bout de 5 ans, 10 ans. Ils reviennent ici. C'est revenir à la racine. C'est comme si on enlevait un arbre et il restait encore un bout de cet arbre. Et il repousse, il repoussera, même si vous l'abattez, il repoussera tout le temps.
Donc ceux qui partent, généralement, ils reviennent?
Oui, souvent.
Et toi, tu te dis pas que tu vas partir?
Moi, je dis rien. Je dis rien. Elle ronfle. Elle est bien.
Tu crois que je peux aller réveiller ton chien pour...
Liquette? Elle a l'habitude, là. Je dirais même quand elle était enfant, elle ronflait, alors.
Ouais. Ah ouais?
Ouais, à un moment donné, elle dormait avec moi et je la réveillais la nuit. C'est comme si t'étais quelqu'un. Arrête, elle ronflait quand même.
Est-ce que tu peux me parler juste une dernière chose des rites? Tu m'as dit l'autre jour qu'il y avait des rites spéciaux pour quand il y avait des morts.
Nous, on a une tradition. En fait, on n'a plus de télé, on n'a pas de musique pendant 9 jours.
Quand il y a quelqu'un qui décède.
On respecte la personne. On fait un feu de camp qui ne doit pas s'éteindre pendant 3 jours. En fait, jusqu'à quand on enterre cette personne, parce que ça dépend quand on l'enterre. Et elle ne doit pas s'éteindre.
Voilà. Et donc, il y a des gens qui veillent toute la nuit, j'imagine.
Qui veillent toute la nuit. Les jeunes ou les femmes préparent du thé, du chocolat, du café, de l'eau, de la limonade et tout. Et en fait, on va le servir autour
du feu de camp.
Du feu de camp.
Et du coup, les gens habituellement, ils décèdent plutôt ici ou à l'hôpital ?
À l'hôpital. Okay. En fait, chez nous, c'est pas bon de mourir dans des caravanes parce qu'on les brûle en fait. On va les brûler.
Si quelqu'un est mort dans une caravane, il faut la brûler.
Faut la brûler.
Il y en a d'autres, des traditions ?
En fait, il y en a beaucoup qui sont perdus.
Comme quoi ?
Une femme mariée ne devait pas passer devant des hommes. Ça se faisait pas. Ils devaient passer derrière eux.
Et ça, cette tradition, elle a disparu.
Ça dépend qui, en fait. Ça dépend quelle personne. Parce que chez nous, bah, les femmes, elles ont pas tellement le droit avant de faire des choses. Maintenant, bah, ça...
Et t'es contente que ça change, ça ?
Oui. Je suis vraiment contente. J'aurais pas survécu à ça. J'aurais pas aimé. Je suis une jeune fille. Je veux qu'on ait mes droits. Je veux leur faire montrer que je suis quelqu'un de forte et tout. Donc, voilà.
T'as l'impression d'être quelqu'un de forte ?
Oui. En fait, je me trouve super forte. Les gens me le disent souvent quand je leur parle de mon vécu, quand je leur parle de ce que j'ai fait, ce que je suis en train de faire. Ils me trouvent super forte. Alors que moi, des fois, je me trouve pas, en fait. Les gens me disent, oui, t'es forte, on n'aurait pas fait ce que toi tu fais, je sais pas comment tu le fais. Moi, je me dis que c'est naturel. Du coup, voilà.
Ah, c'est bien, mais t'as raison. Je suis d'accord avec eux. T'es très forte, tu m'impressionnes.
Je suis contente.
Merci à Pruna Demestre, merci à l'association École pour tous qui nous a mis en lien et à William Acker pour son livre essentiel « Où sont les gens du voyage ?» qui est en accès libre et gratuit. On mettra le lien ainsi que plein de photos sur la page du site de Full Continental. Merci à Flora Bernard à la réalisation, à Hugo Combe au montage, merci à Djoubaka pour la programmation musicale et à Claire Brault pour les dessins. Merci aussi à vous pour votre écoute. Bonne soirée.